Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et c'est l'heure de Bulle d'Histoire et l'on retrouve évidemment Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie et ravi de vous retrouver une fois de plus.
Bah oui, comme tous les 15 jours donc pour cette émission avec plein d'invités depuis presque un an,
Ça fait 21 bulles.
Voilà, exactement.
Donc on compte à chaque fois.
Voilà, donc l'année 2020 commence très bien.
Pour cette 21e Bulle d'Histoire, mon invité c'est Gaëtan Nock, je le connais depuis quelques temps. J'avais beaucoup aimé ses bandes dessinées sur la guerre d'Algérie, sur la guerre en Russie. Donc des sujets pas forcément très joyeux. Là, on n'est pas non plus dans un sujet joyeux, mais on est dans un album qui est considéré par beaucoup de gens comme un des grands chefs-d'œuvre de 2019, qui est le Rapport W. Avant de parler de l'album, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, Gaëtan ?
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Stéphane. Moi je suis donc auteur BD, je m'y suis mis assez tard finalement, depuis 5-6 ans, je consacre tout mon temps de création à ça. Auparavant je viens du carnet de voyage, j'ai fait une vingtaine d'années à barouder entre guillemets dans différents pays du monde et à me frotter à la réalité par le dessin, étant un excellent moyen d'aller à la rencontre des gens. Et voilà, j'ai fait mon premier album, c'était sur la guerre d'Algérie, et voilà, j'en suis aujourd'hui au troisième album, donc le Rapport W.
Donc vous baroudez toujours avec ce Rapport W, parce qu'on est en Pologne. L'histoire que vous racontez est une histoire absolument extraordinaire au sens propre du terme. C'est l'histoire d'un Polonais dont vous allez nous raconter un peu l'histoire, mais donc Witold Pilecki, qui va se faire enfermer volontairement à Auschwitz en 1940, donc au tout début de la guerre. Donc pourquoi se fait-il enfermer volontairement à Auschwitz, qui est quand même quelque chose de pas banal?
Alors c'est le récit d'une mission, d'une mission d'espionnage donc pas banale, atypique, impossible même. Et donc Witold Pilecki, qui est officier de l'armée polonaise, cofonde une branche de l'armée secrète en 1939. Et décide en effet d'infiltrer Auschwitz, donc en septembre 40.
Je rappelle que les Allemands sont rentrés en Pologne en septembre 39, qu'ils ont envahi la Pologne, qu'ils ont, on peut dire, détruit la Pologne, mais il y a quand même des embryons de résistance et d'armée secrète.
Oui, tout à fait. En fait, le reste de l'armée polonaise s'organise très vite en armée clandestine. Le QG est à Varsovie et puis le gouvernement s'exile d'abord en France et ensuite, étant donné que les Allemands envahissent la France, ensuite s'exile à Londres. Donc il y a tout un réseau comme ça qui se met en place. Pilecki donc décide de se proposer d'infiltrer Auschwitz. Pourquoi Auschwitz ? Parce que c'est le début du camp de concentration et ce camp est essentiellement pour les prisonniers polonais. On sait que les nazis voulaient décapiter la Pologne et ils commençaient par toute l'intelligence, qu'elle soit civile ou militaire. Et donc Pilecki sait qu'il y a des collègues, des camarades à lui là-bas, et décide d'infiltrer Auschwitz. Pourquoi ? Pour fonder une rébellion, et donc fonder un réseau de résistance. C'est ça sa mission.
Donc nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait que c'était une mission impossible. Pourtant, lui, il va vraiment s'y consacrer pleinement. Il va y rester même très longtemps, Auschwitz. Presque trois ans, c'est ouais. Ça. Et il ne va penser qu'à ça, ça va être son occupation quotidienne.
Oui, alors évidemment on peut être que humble face à cette mission, parce qu'il s'agit déjà d'abord de sauver sa peau, et ensuite il a cette mission supérieure qui dépasse sa propre vie, c'est de fonder ce soulèvement. Il se rend assez vite compte qu'il ne va pas le faire tout de suite, et que c'est plutôt à long terme, et donc il se consacre à construire un réseau, c'est-à-dire à recruter. à recruter des hommes de confiance. Et donc, il a tout un système de numérotation, tout un système de cellules organisationnelles, hein, par cellules de 5 qui ne se connaissent pas. Donc, on est vraiment dans une trame d'espionnage, hein, de récit où le secret prévaut. Et parallèlement à ça, ça raconte aussi, évidemment, la vie quotidienne du camp. Et comme il reste quasiment 3 ans, son glissement jusqu'à la Shoah, hein, à partir de 1942.
Oui, parce qu'en fait, dans tout l'album qui est copu, hein, il y a 230 pages.
Oui, de BD, oui.
C'est vraiment quelque chose de... On est immergé complètement. On peut dire qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Pilecki qui monte son réseau. Donc on ne sait pas s'il va y arriver. Il y a un vrai suspense. Il y a des traîtres, il y a des infiltrés. Enfin, oui. C'est assez palpitant. Mais il y a aussi l'histoire de sa survie, parce qu'il est quand même prisonnier dans le camp et il subit les mêmes avanies que les autres.
Oui, oui, tout à fait. Je voulais... bon, c'est un travail d'auteur, c'est un travail artistique, bien évidemment, c'est une bande dessinée. Et il était important pour moi d'avoir un point de vue. Je pense que tout auteur, sur quelques récits qu'il soit, il est important d'avoir un point de vue. Moi, mon point de vue, il était essentiellement à l'échelle de cet homme, avec sa volonté, mais aussi avec ses faiblesses, avec ses doutes, avec ses questionnements. Et donc, je me suis mis dans sa peau, hein, en quelque sorte. Enfin, j'ai essayé. Et c'est tout le travail de la création. Et pour moi, il était important, d'ailleurs, avant de commencer à travailler sur cette bande dessinée, concrètement, de faire des planches, d'aller sur place. C'est-à-dire que je suis allé en reconnaissance, en quelque sorte, dans le camp d'Auschwitz 1. Hein, je précise, c'est Auschwitz 1, c'est pas Birkenau. Et je voulais pas me contenter, en fait, d'aller flirter sur Internet, de glaner des images à droite, à gauche. Je voulais avoir une expérience du lieu. Et quand on va là-bas, donc j'y suis allé 2 fois. Quand on va là-bas, évidemment, on en voit les traces, on en voit les stigmates, mais on voit aussi des choses qui sont de l'ordre du point de vue personnel. Moi, j'ai été beaucoup intéressé, évidemment, par tout le jeu des bâtiments, l'espace, etc., les détails, les objets, mais aussi la nature dans le camp, hein, puisque des arbres ont été plantés en 1940-42, et ces arbres, dans les allées, sont maintenant très grands. Et je les ai dessinés, ces arbres, je me disais, mais ces arbres, c'est les témoins. Hein. J'ai dessiné leur écorce, je me dis, bah, ils ont ressenti, ils ont vu, ce sont les témoins de toutes ces atrocités. Et puis, j'ai aussi, dans la mesure où il y a une évasion, il était important pour moi d'aller voir autour du camp, et notamment cette fameuse rivière Sowa, qui est la rivière de l'évasion, et de voir cette nature qui a sauvé, en quelque sorte, Pilecki.
Parce qu'on on va reparler de la vie dans le camp, mais il y a des vraies respirations. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de rêves, il y a des animaux, il y a des chevaux, des vaches. Enfin, c'est une vision de ce moment de l'histoire qui est pas courant. Voilà. La nature est vraiment présente.
Oui, je voulais pas m'apesantir sur les atrocités. Ça ne veut pas dire que j'ai édulcoré les choses. Hein. On est plutôt dans la suggestion, parfois dans la métaphore, dans le rapport de cause à effet. Et pour moi, tout prisonnier, quel qu'il soit, il a besoin d'échapper. Alors, échapper, c'est les souvenirs, c'est les rêves qui peuvent devenir cauchemars. Et c'est aussi par la petite ouverture, la petite fenêtre de la cellule ou de l'atelier de travail, ce bout de ciel qu'on voit, ces couchers de soleil. Et ça, je ne l'invente pas, parce que Pilecki, dans son rapport, en parle. Il parle des beaux couchers de soleil. Hein. Il parle d'émotions esthétiques face à ces couchers de soleil qu'il y avait sur la place d'appel. Il parle de rêves aussi. Donc, les rêves que j'ai mis dans l'album, je ne dis pas que ce sont réellement ses rêves, mais en tout cas, ça évoque ou ça convoque les rêves qu'il a pu faire. Oui.
Oui, c'est une de mes questions. Est-ce que tous les flashbacks, ce sont des vrais flashbacks ou est-ce que ce sont des inventions ?
Et ce sont des créations de ma part, bien scénaristiques, mais par exemple, le premier rêve qui est sur le lac Ladoga, je me suis dit que Pilecki, en fait, il est né sur le lac Ladoga. Alors, le lac Ladoga, c'est au nord de Saint-Pétersbourg, c'est une région de grands lacs, c'est magnifique, c'est superbe. Et il a vécu une partie de son enfant jusqu'à 9-10 ans là-bas. Et je me suis dit, mais nos souvenirs jusqu'à 9-10 ans, ils sont très très forts. Et quand j'ai vu ce qu'était cette région, je me suis dit, bon, j'ai mis en place ce rêve qui permettait d'avoir une bouffée d'oxygène autour de ce lac et qui faisait référence à son grand-père Pourquoi ? Parce que son grand-père était un très grand patriote au 19e siècle contre les Russes, parce que vous savez, hein, l'histoire, les Russes avaient envahi, entre guillemets, la Pologne, et donc son père était un grand patriote, avait été déporté dans cette région de la Russie, d'où justement la descendance et la naissance de Pilecki dans cette région-là. Le rêve de l'évasion, par exemple, c'est un rêve qu'il raconte dans le rapport Pilecki, donc je laisse les lecteurs.
Parce que qu'est-ce qu'on a comme trace de ce rapport Pilecki ?
Alors, en fait, il y a deux rapports. Le rapport Pilecki, c'est le plus grand, enfin c'est le plus long, c'est-à-dire il fait une bonne centaine de pages. C'est celui qui a été édité, imprimé aux éditions Champvallon, c'est celui que j'ai adapté, et qui a été écrit à l'été 45 pour le gouvernement exilé, pour rappeler la totalité de la mission de Pilecki. Il y en a un autre qui s'appelle le rapport W, qu'il a écrit, qui est un peu moins long, qui fait une dizaine de pages, qu'on a retrouvé d'ailleurs à Cracovie, au musée de l'armée de l'intérieur de Cracovie, et dont certaines pages sont publiées dans l'album. Donc ça, c'est très important, parce que c'est quelque chose d'original, enfin en tout cas historiquement, ça n'a jamais été publié en France. Et le rapport W donc est plus court, il écrit juste après son évasion, et pour un petit peu réveiller, entre guillemets, l'armée secrète ou le QG de Varsovie, et par rapport au fait qu'il est temps de monter ce soulèvement, il faut faire quelque chose.
Ouais, c'est des documents très émouvants parce que c'est son écriture. Puis ils sont un peu détruits. Enfin, on voit que ça n'a pas été facile de les faire sortir, même de les fabriquer.
Tout à fait. Ouais.
Parce que tout au long de sa mission, il arrive à faire sortir des petits rapports, en tout cas des bouts de rapports.
Oui, sûrement.
Par des évadés. C'est ça aussi, c'est extraordinaire.
C'est assez rocambolesque, oui. Alors les rapports, on pense en grande partie qu'ils étaient oraux. C'était souvent transmis soit un prisonnier qui allait s'évader, soit un prisonnier qui était libéré. Au début du camp, il y avait des libérations. C'était aussi par des réseaux de résistance de civils qui étaient proches d'Auschwitz, hein, polonais. Donc il y avait le camp était pour eux, grâce notamment aux ateliers de travail, qui étaient souvent à l'extérieur du camp. Ce qui a permis justement d'avoir des liens un peu plus faciles, évidemment, si je puis dire, avec l'extérieur. Donc en effet, j'aurais aimé retrouver des traces de ces bouts de papier qu'il a fait passer, mais hélas, ça c'est parti, c'est peut-être à Londres, je ne sais pas.
Mais dans les choses, est-ce qu'il y a quand même des choses drôles dans cette bande dessinée ?
Oui.
C'est dramatique, mais en même temps, il y a plein de choses drôles. Il y en a une qui est drôlement dramatique, j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, il a peur d'être libéré, parce que sa famille va faire ce qu'il faut pour le libérer. Et d'abord, lui, il ne veut pas être libéré, premièrement. Et surtout, s'il est libéré, il va devoir révéler son vrai nom.
Oui.
Et donc, il va re-risquer quelque chose, parce qu'il a caché son vrai nom au SS qui l'ont arrêté. Ça, c'est une histoire vraie.
Oui, ça, on ne l'a pas dit, il est infiltré. Donc, évidemment, il est sous un faux nom, sous le nom de Thomas Serafinski. Il récupère par les réseaux clandestins de résistance à Varsovie, il récupère une pièce d'identité réelle qu'on lui donne. Il change juste la photo et il infiltre sous le nom de Thomas Serafinski, donc le camp d'Auschwitz. Il se fait arrêter par une rafle. Hein. Il débarque pas, toc toc, bonjour, je vais me faire enfermer. Il est au courant d'une rafle à Varsovie le matin du 19 septembre, je crois, 1940. Et il fait comme s'il était là par hasard et pof, il se fait rafler. Voilà. En effet, c'est. Donc la question, c'était.
C'est qu'il s'aperçoit qu'il y a des camarades qui sont libérés parce que leur famille a tout fait et elle a réussi et lui.
Oui, moi je trouvais ça complètement paradoxal, et il le dit, hein, ça j'ai repris ce passage-là, parce que c'est complètement inversé, alors que beaucoup de ses camarades essaient de se faire libérer, essaient de s'évader, lui il organisera aussi des évasions, lui surtout il va jusqu'au bout de sa mission, c'est son obsession, c'est la réussir, et donc surtout pas faire en sorte qu'on trouve sa véritable identité, parce que ça voudrait dire qu'aussi on irait s'attaquer à sa famille, rester à Varsovie.
Alors il y a d'autres choses qu'on sait un peu quand on s'intéresse à cette histoire, mais qui sont quand même très étonnantes. C'est quand il doit refaire la cuisine de la femme du commandant du camp. Ça aussi, on tombe de sa chaise quasi carrément, parce que ce SS qui est un infâme tortionnaire, il récupère quelques prisonniers parce qu'il veut que la cuisine de sa femme soit nickel quand elle arrive.
Oui, oui, oui. Alors, c'est pas le commandant. Il fait le jardin du commandant. Et là, c'est un officier SS, on va dire lambda. Enfin, en tout cas, il est pas cité. Il n'y a pas son nom. Mais oui, oui. Donc, il y a toujours cette... J'ai voulu travailler sur la confrontation avec la quotidienneté. Et en effet, il y a l'atrocité du camp d'Auschwitz. Et puis, 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin, il y a la rivière, il y a les arbres. Et puis, il y a la ville d'Auschwitz-Chim. Avec en effet au départ des officiers qui étaient logés là-bas, hein, parce qu'il faut bien comprendre que le camp d'Auschwitz était en construction permanente en fait, hein, donc il y avait des bâtiments qui s'agrandissaient, on ne pouvait pas forcément loger tout l'appareil répressif SS, et donc en effet les SS avaient réquisitionné des maisons, et ce passage je le trouvais intéressant parce que d'une part ça permettait à Pilevski de sortir du camp, ça lui permet de sauver sa vie parce qu'il intègre, il se fait passer pour un chauffagiste, hein, là aussi il avait toujours du nez, c'est-à-dire il fallait être très opportuniste pour sauver sa vie, il fallait être manuel, et donc il s'improvise chauffagiste pour aller régler la chaudière, réinstaller tout l'appareil de cuisine de cet officier SS. Et j'ai insisté sur le fait que, bah oui, cet officier, il va accueillir sa femme, il va faire son nid. Hein, c'est le terme d'ailleurs qu'emploie Pilevski, il allait faire son nid. Et du coup, lui, pendant tous ces jours-là, il raconte qu'il est transporté entre l'enfer du camp et la banalité de la réalité quotidienne. En effet, tout le monde prend son petit déjeuner, son café, et je l'ai mis en scène avec un petit chat, et tout le monde a un petit chat, même le pire ou infâme tortionnaire.
Donc, une chose qui est particulièrement réussie dans tout l'album, c'est qu'on a toujours l'impression d'être tout près du héros, on a l'impression quasiment de regarder par-dessus son épaule, d'être à côté de lui, de l'accompagner. C'est assez troublant parce qu'on est plongé vraiment dans cet univers et dans son histoire. Comment vous avez réussi ce tour de force de nous emmener comme ça, à toujours être à côté, tout près du héros ?
Alors, évidemment, il n'y a pas de recette. En tout cas, moi, c'était mon intention, hein, d'être au plus près de cet homme, de ce qu'il pensait, de ses doutes, etc. Il y a le rôle de la couleur, qui pour moi, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est peut-être l'occasion, justement, je parlais du point de vue d'auteur. Le point de vue, il passe par la couleur. J'ai voulu en faire un vrai manifeste de la couleur dans ce récit. La couleur n'est pas descriptive, elle n'est pas naturaliste. Elle est là pour convoquer des sensations, des impressions qui vont de la sérénité à l'étouffement, à l'angoisse, etc. etc. Et en aucun cas, je veux donner un mode d'emploi non plus de lecture en disant bah, le bleu, ça veut dire ça, le rouge, c'est ça. Je laisse aussi, pour moi c'est important, je laisse aussi le lecteur s'approprier le récit et je fais en sorte qu'il soit assez ouvert. Je me disais aussi, je parlais du côté non naturaliste, dans la mesure où Pilevski raconte qu'il a l'impression d'être dans un mauvais rêve, je voulais cette ambiance un peu irréelle tout au long du récit, avec ce basculement de scénette en scénette. De paire de chaussures, on arrive dans le bloc 11 où il croise un tortionnaire. Enfin voilà, il y a ce côté presque rêve, un peu à la Philémon, vous voyez, à la Fred, les aventures de Philémon, où on rentre dans des univers un petit peu différents. Je voulais cette ambiance-là assez réelle.
Il y a une autre personne qui est importante dans l'album, c'est Isabelle Davion,
oui.
Donc une historienne, qui signe un très très gros dossier documentaire, indispensable d'ailleurs pour bien comprendre les enjeux. Comment s'est passé le travail à deux ? Est-ce que c'est elle qui a commencé ? Est-ce que c'est vous ? Comment tout ça s'est mis en route ?
Alors, Isabelle, c'est une personne très importante dans ce projet, parce qu'elle est à l'origine, c'est elle qui m'a présenté le rapport Pilevski, donc édité aux éditions Champvallon, puisqu'elle avait travaillé sur les notes historiques en 2014, je crois. Elle avait travaillé avec les traducteurs. Voilà, elle a fait tout un travail de chercheur. Hein. C'est son métier. Elle est maîtresse de conférence à la Sorbonne, concentrée sur cette période d'entre-deux-guerres en Pologne. Et donc, comme on est amis, voilà, à l'origine, c'est ça, c'est une histoire d'amitié. Elle m'a présenté le livre et en me disant, bah, tu le lis et puis tu me dis ce que tu en penses, mais ça pourrait être une idée d'adaptation. Donc en effet, je me suis lancé dans l'aventure après la lecture, et je lui ai dit, oui, alors dans ce cas-là, tu seras aussi ma conseillère historique, ça paraît incontournable. Donc en effet, Isabelle m'a a suivi toute l'évolution du travail. Et puis le deuxième voyage à Cracovie, on l'a fait ensemble. On s'est retrouvé justement au musée de l'armée de l'intérieur, et c'est là que le directeur nous a reçus et nous a sorti des pièces d'archives, notamment le tapuscrit du rapport W. Et ça, là, c'était un moment assez émouvant.
Alors, il y a une chose rare dans les bandes dessinées, c'est dans les remerciements.
Oui. Donc,
vous remerciez des tas de gens, hein, mais vous remerciez aussi des musiciens. Moi, j'ai choisi deux morceaux. J'aimerais bien que vous nous éclairiez quel est le rapport entre ces morceaux et la bande dessinée. Comment vous travaillez, sachant que vous êtes musicien. Vous l'avez été, mais en tout cas, on n'arrête jamais d'être musicien,
oui.
À mon avis. Le premier morceau, c'est un morceau de Michael Nyman, qui a été composé pour Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway. Le titre, c'est An Eye for Optical, et on va en écouter un extrait. Donc on vient d'écouter donc Michael Nyman. Donc Gaëtan, quel est le rapport entre Michael Nyman et le rapport W, et comment il s'est introduit dans votre travail?
Alors déjà, je suis très content de cet extrait, parce que c'est peut-être mon morceau favori, c'est du saxo baryton qu'on entend au début, et j'ai joué du saxo baryton, donc pour moi ça résonne vraiment au fond de moi-même, il y a une vraie vibration. La musique pour moi est importante, en effet, vous l'avez dit, elle est, j'ai été longtemps musicien, en tout cas j'ai été praticien de la musique, donc j'ai une culture, en tout cas mon niveau, hein, j'ai fait de la musique classique, et puis je suis allé plus sur le jazz. Le rapport à la BD c'est un rapport à l'espace et au temps. On organise des scènes sur des centaines de pages. Il y a le tour de page, il y a un rythme de lecture. Et pour moi, en effet, la rythmique est importante dans cet enchaînement des doubles pages. À l'intérieur même des doubles pages et ensuite dans la succession des pages qui s'annoncent. Et donc, je pense souvent au rythme. Donc, au lecteur de voir en lisant la BD, en effet, les jeux de proportions qu'on peut trouver dans la relation des différentes cases, des moments de rythme, d'action, et puis des moments d'apaisement, voire de contemplation, hein, des jeux entre le bruit et le silence, en quelque sorte, ce qui est le propre de la musique, hein, c'est une harmonie de son par rapport à du silence, donc le plein et le vide. C'est vrai que la plupart des musiques que j'ai écoutées pendant la conception de cet album sont... C'est difficile de ramener ça dans un... Mais c'est plus de la musique répétitive. Hein. Et Michael Nyman joue beaucoup là-dessus, avec un lien avec la musique baroque, donc l'art du contrepoint, hein. des mélodies qui s'enchevêtrent comme ça. Et en effet, alors j'écoutais pas tout le temps de la musique, mais j'avais souvent un passage de 2-3 heures où j'écoutais vraiment la musique de manière assez forte, ce qui me permettait aussi de maintenir... maintenir une tension et une vibration tout au long du travail. Donc, voilà.
Alors, dans la liste des morceaux que vous citez, il y en a un autre qui est totalement différent, plus onirique, on va dire,
oui.
Qui est le thème de Interstellar, donc composé par Hans Zimmer. Donc, c'est pour le film de Christopher Nolan. On va en écouter encore un petit morceau. Gaëtan, est-ce que c'est cette musique plus onirique, ça correspond à cette fois-ci à des planches de rêves, de chevaux, de petits garçons, de forêts, de rivières, de...
D'espace, en tout cas, oui, ça c'est sûr. L'espace dans la nature, c'est-à-dire le rapport entre l'homme qui est minuscule et la nature qui est très grande. Hein. C'est ce rapport d'échelle, en tout cas, qu'on retrouve très bien d'ailleurs dans le film.
D'ailleurs, pour ça, il y a une très très belle planche avec une toute petite ligne de tout petit personnage qui est, voilà, à chaque fois que je vois cette planche, je suis bouleversé parce que c'est d'une beauté simple assez extraordinaire. J'invite vraiment les lecteurs à se plonger là-dedans.
C'est celle sur l'orchestre, c'est ça?
Oui.
Oui, oui. En plus.
On va pas raconter tout ce qui se passe dans le rapport W. Juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter la fin de la vie de Pileski? Parce que c'est une fin, une fin troublante, une fin dramatique.
Oui, donc il sauve sa peau à Auschwitz. C'est quelqu'un qui a affronté les totalitarismes, donc le premier c'était le nazisme, et qui affronte le deuxième totalitarisme après-guerre, c'est-à-dire le soviétisme, en tout cas le stalinisme. Dans la mesure où c'était un patriote polonais, il refuse évidemment que son pays tombe sous le joug soviétique, et le gouvernement provisoire, qui était, enfin en tout cas, considéré comme légitime, qui était resté à Londres, lui donne la mission de lutter contre le régime communiste polonais, donc soviétique, et lui demande de construire un nouveau réseau. Et voilà, il se fait arrêter et jugé. Il y a un an de procès, et en 1947, il est exécuté pour espionnage. Voilà, une fin. La fin d'un homme humble qui était un vrai combattant de la liberté, et qui va être complètement effacé des tablettes de l'histoire par les soviétiques. Et c'est à la chute du mur que, évidemment, l'histoire de Witold Pilecki est ressortie.
En tout cas, le rapport W que vous avez dessiné est vraiment une grande bande dessinée qu'il faut absolument lire. C'est une histoire d'un héros. Mais c'est aussi une histoire, j'allais dire, d'une quête très humble et très humaine. Voilà, je vous remercie Gaëtan d'avoir passé 20 minutes ou un peu plus avec nous. Julie, je vous repasse la parole.
Et oui Stéphane, merci. Donc je redis effectivement 260 pages pour découvrir cette bande dessinée historique donc, qui s'appelle Le Rapport W, avec donc vous Gaëtan Nock au dessin et au scénario, accompagné pour cette longue recherche historique par Isabelle Davion, qui vous a donc fait part de ce sujet original. Et tout ça est à retrouver au prix de 29 euros aux éditions Daniel Maguen. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission Bulle d'Histoire. Merci Gaëtan.
Merci.
Et à très bientôt Stéphane.
À bientôt Julie.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.